Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans le prolongement de ce que je vous ai enseigné à l'occasion de l'homélie du jour de l'Ascension, me vient à l'esprit cette citation du grand cardinal Pie, retenez-la par cœur, « Une saine fierté sied bien aux chrétiens. Au nom de Dieu, pas de prostration devant ce qui vous est inférieur. Abaissez-vous par humilité, abaissez-vous par charité, mais n'abaissez jamais avec vous la foi, votre foi. N'abaissez jamais votre caractère de chrétien. Lors de son procès, Jeanne, dont nous solennisons la fête aujourd'hui, appliqua exactement cette attitude et nous pouvons remarquer par son exemple que dans les situations les plus complexes, si nous sommes humbles et charitables et que nous gardons la foi et notre caractère de chrétien, nous sommes assistés par le truchement du Saint-Esprit et de notre ange gardien. En l'occurrence, pour Jeanne, elle fut dès l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 19 ans guidée par les voies de l'archange Saint-Michel, de Sainte Marguerite d'Antioche et de Sainte Catherine d'Alexandrie. Sainte Catherine et Sainte Marguerite, vierges et martyres, furent les modèles et les assistantes de Jeanne dès 424 à Domrémy. Saint-Michel montrant à Jeanne la pitié qui était au royaume de France, lui annonça « Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront à toi, suis leurs conseils, elles ont été choisies pour te conduire et te conseiller en tout ce que tu as à faire. Crois ce qu'elles te diront, c'est l'ordre de notre Seigneur. » De fait, ces deux saintes qui formèrent son conseil, la guidèrent à Vaucouleurs, puis à Chinon, où elles lui donnèrent un signe pour convaincre le dauphin. Elles assistèrent ensuite, durant toutes ses campagnes militaires, contribuant de manière décisive à ses victoires, et lui permirent de conduire Charles VII à Reims pour y recevoir son sacre. En avril 430, elles lui annoncèrent qu'elle serait faite prisonnière par les Anglais, qu'elle ne devait pas avoir d'émoi, qu'il fallait qu'ainsi fût fait, qu'elle acceptât tout en gré que Dieu lui aiderait. Elles furent son seul soutien durant ces longs mois de captivité, et Jeanne, qui n'accepta jamais de les renier, les invoqua au milieu des flammes de son bûcher juste avant de rendre son âme à Dieu le 30 mai 431 à Rouen. La question que nous pourrions nous poser, pourquoi un tel procès? Plus que de faire disparaître à pucelle ce qui était important aux yeux des Anglais et de l'élite intellectuelle en charge du procès, c'était de déconsidérer Charles VII en prétendant au trône de France, poussé par Jeanne d'Arc. Ce dernier contrevenait en effet au plan d'organisation européenne tissé lors du traité de Troyes en 420, qui voulait le déshériter, réunir la France et l'Angleterre dans un même conglomérat. Pour faire perdre toute crédibilité à Charles VII, quoi de mieux que de prouver officiellement par un tribunal ecclésiastique et un châtiment public réservé aux sorcières et aux impures, qu'il a été soutenu et rétabli à la tête du royaume de France par une folle. Le procès de Jeanne d'Arc est en fait le premier procès politique de l'histoire. La révision de son procès et sa réhabilitation ouvert à la demande de Charles VII vers la fin de sa vie permis de mesurer la grandeur d'âme de Jeanne, son courage, la profondeur de sa foi, sa fidélité sans faille à sa vocation et à son conseil de l'Église triomphante par ses voies. Elle qui fut blessée 3 fois et vu la mort de près bien des fois, n'avait pas peur de la mort. Mais pour notre chère Jeanne, ce qui fut le plus difficile à accepter, ce fut de mourir sur un bûcher comme une impure, elle qui était tout impeccable. À l'âge de 19 ans, Jeanne d'Arc, épuisée et enchaînée, supporta pendant plusieurs mois l'interrogatoire d'un tribunal fantoche, dirigé par un juge inique, qui s'était juré de l'anéantir. Réplique fameuse de cette jeune paysanne lettrée aux accusations portées contre elle témoigne d'un degré de sagesse remarquable. Quand le tribunal l'accusa d'avoir désobéi à ses parents en quittant sa maison et en s'engageant dans sa mission sans le consentement, sans leur consentement, Jeanne donna à tous ses juges, docteurs en sciences ecclésiastiques, une magnifique leçon de théologie. Puisque Dieu le commandait, eusais-je eu sans père et sans mère, eusais-je été fille de roi, je serais partie. Quelle belle figure, cette fille qui offrit sa vie à 19 ans, à l'âge où la jeune fille de maintenant commence la vie estudiantine. Mes amis, je voudrais conclure en mettant à l'honneur les Anglais. Écoutons ce que nous disait un fameux Premier ministre, Churchill. Jeanne d'Arc fut un être d'une nature si élevée qu'il y avait 1000 ans que le monde n'avait pas connu une personne d'une telle envergure. Et pour vous donner une deuxième citation, je prendrai un écrivain anglais bien connu, Chesterton, qui nous dit « Jeanne d'Arc ne piétina pas au carrefour de la vie. En rejetant tous les chemins comme Tolstoï ou en les acceptant tous comme Nietzsche, elle choisit un chemin et l'emprunta sans hésitation, comme la foudre. Tolstoï fit l'éloge du paysan. Elle fut le paysan. Nietzsche fit l'éloge du guerrier. Elle fut le guerrier. Elle les bâtit tous les deux sur leurs terrains respectifs. Elle fut plus douce que le premier, plus violente que le second. Mais avant tout, elle fut une femme d'action, alors qu'eux furent des spectateurs sauvages qui ne firent rien. » Et comme le disait un illustre personnage en résumant la vie de Sainte Jeanne d'Arc, « C'est merveilleux, c'est mystérieux, c'est ainsi. Qu'en sera-t-il de notre vie ? Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »